10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bienvenue chers auditeurs pour le deuxième volet du 33e numéro de Le Monde ne suffit pas, votre émission de géopolitique qui décortique pour vous tous les dossiers de l'actu internationale en compagnie de spécialistes, souvent universitaires, parce que le monde ne suffit pas. Suite et fin déjà de trois émissions consacrées à l'organisation terroriste Daesh. Après nous être intéressés dans le dernier volet au visage étatique et à l'islam vu par l'œil, on explore aujourd'hui la manière dont celle-ci s'est construite aussi comme une entreprise mafieuse. Enfin, on reviendra sur la communication de Daesh, communication qui vise tant à séduire de potentiels volontaires qu'à semer la terreur chez ses ennemis. Alors pour ce faire, je suis toujours accompagnée par Thomas, bonjour à toi.
Bonjour.
Et si j'ai bien compris, tu continues à nous mettre de bonne humeur, c'est ça?
Bon alors Céline, faut être honnête avec nos auditeurs, tu m'as engagé pour plomber l'ambiance. Alors je vous parlerai du trafic d'organes auquel Daesh se livrerait, ce qui lui fournirait une source de financement non négligeable.
Alors oui, une source de financement parmi d'autres, comme on le verra au cours de l'émission avec notre invité, toujours le même, qui a accepté avec grâce cette série de 4 émissions, j'ai nommé Fabrice Palonche. Et puis je sens votre impatience, chers auditeurs, et sans plus tarder, on embarque tout de suite pour le Moyen-Orient.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
82% du financement de cette organisation provient directement des ressources qu'elle a à sa disposition. Ça veut dire qu'on a changé totalement de modèle. On est sur une organisation qui est autonome financièrement.
On vient d'entendre Jean-Charles Brizard, expert en financement du terrorisme, dont le documentaire d'Arte déjà mentionné est diffusé en janvier 2015. Alors selon les estimations des services de renseignement américains qui datent ici de septembre 2014, Daesh engrangerait jusqu'à 3 millions de dollars quotidiennement. L'État islamique est, je cite, « plus sophistiqué et mieux financé que tout autre groupe que nous ayons connu ». Il va au-delà de tout autre groupe terroriste, avait ainsi déclaré le secrétaire d'État à la Défense, Chuck Hagel, en août 2014. Alors, première source de financement et non des moindres, c'est le pétrole. Vous le savez, Fabrice Balanche, en tant que géographe et fin connaisseur de la région concernée, le califat contrôle des gisements d'hydrocarbures dans les provinces de Hasaké et surtout de Deir ez-Zor au nord-est de la Syrie, dans la province d'Al-Anbar et la province de Saladin au nord-ouest de l'Irak également. Ce territoire à haute valeur économique permet d'une part d'assurer les besoins énergétiques locaux de Daesh et leur garantit d'autre part une source importante de financement grâce à l'extraction de pétrole brut et l'utilisation d'anciens chemins de contrebande pour le vendre à des prix défiant toute concurrence au marché noir, donc à la Turquie et aussi au régime syrien.
Effectivement, en Syrie, dans la zone tenue par Daesh, il y avait une production pétrolière quotidienne avant la crise de 300 000 barils par jour. Daesh ne parvient qu'à produire 30 000 barils par jour. Dans cette zone. Les raffineries dont vous parlez, ce sont des raffineries artisanales de petite taille qui se sont constituées du fait du bouclage de ce territoire. Ce ne sont pas des grandes raffineries étatiques dont ils auraient pris le contrôle parce qu'ils sont absolument incapables de les faire fonctionner. L'essentiel de la vente de pétrole, c'est pour la consommation locale. Daesh contrôle un territoire où vous avez entre 4 et 6 millions d'habitants qui doivent se nourrir, se chauffer, circuler, produire de l'électricité. Donc par conséquent, vous avez un marché local qui leur suffit amplement. Vous pouvez avoir effectivement de la contrebande de pétrole côté gouvernement syrien, côté gouvernement kurde, etc. Parce qu'ils trouvent toujours des intermédiaires ravis de faire de l'argent, et l'argent n'ayant pas d'odeur, qui travailleront avec Daesh. Mais finalement, ça, c'est assez limité. Parce que des colonnes de camions citernes qui passeraient par la frontière turque, ça se voit. Donc on peut taper quand même sur les doigts de la Turquie. Et puis c'est facile pour des avions de les cibler. Donc c'est plutôt tous ces petits micro-financements à la vente, au détail, etc., qui rapportent beaucoup d'argent à Daesh, plus que des exportations sur une grande échelle.
Deuxième source de financement et deuxième type de trafic qui remplit les caisses de Daesh, le racket et l'extorsion de fonds. Le groupe terroriste a mis en place des taxes et des impôts donc dans les territoires occupés, comme vous le disiez, ainsi que des péages à sa frontière avec la Turquie. D'ailleurs, il bat sa propre monnaie, avec assez peu de succès pour l'instant cependant. Les entreprises également, qu'elles soient grandes ou petites, doivent payer des taxes fortes à l'État islamique. Et puis, les pillages des territoires envahis ont aussi rapporté des millions de dollars en liquide et des équipements pris dans les banques et les installations militaires qui avaient été désertées par les autorités gouvernementales en Irak notamment. troisième type de ressources, le trafic d'œuvres d'art et le commerce illégal d'antiquités. Selon le Guardian, en juin 2014, Daesh aurait ainsi empoché près de 36 millions de dollars dans une seule province de Syrie, en vendant des artefacts qui sont vieux parfois de 8000 ans. Dernière ressource enfin, le trafic d'êtres humains, parce que Daesh a remis au goût du jour l'esclavage pour les infidèles, toujours en accord avec la loi islamique, en particulier pour les femmes et les enfants non musulmans qu'ils revendent aux marchands d'esclaves. Régulièrement, l'État islamique publie les cours des prix de vente des esclaves. Ainsi, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, on pouvait acheter une petite fille de moins de 10 ans pour 138 euros contre 35 pour une femme de 50 ans. Et puis on l'apprenait le mois dernier, dernier trafic auquel se livrerait Daesh, c'est le trafic d'organes, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, exactement. Nous avons des corps, venez et examinez-les. Il est clair qu'il manque certaines parties, a déclaré Mohamed Al-Hakim, ambassadeur d'Irak à l'ONU, mercredi 18 février 2015 dernier, lors d'une conférence de presse. Plusieurs corps présentant des entailles chirurgicales auraient été retrouvés dans des charniers sur lesquels les reins et d'autres parties du corps auraient été prélevés. Mohamed Al-Hakim a également raconté comment au moins une douzaine de médecins auraient été exécutés à Mossoul pour avoir refusé de participer à ces prélèvements d'organes. Il a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'enquêter sur la question. Après ces accusations, elles ne sont évidemment pas irréaliste, dans le sens où le trafic d'organes, il avait déjà cours en Irak depuis la fin des années 2000, conséquence de la guerre en Irak et de la détérioration de la situation sanitaire. Ce trafic d'organes, il concernait surtout les reins et se faisait au profit d'Irakiens fortunés. Il s'était développé un véritable tourisme de transplantation, selon une enquête de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Et donc, il ne serait pas improbable que l'organisation terroriste Daesh ait réinvesti ce trafic ou l'ait détourné à son profit.
Mais s'il était avéré, le trafic d'organes serait donc une autre source de financement pour l'organisation terroriste.
Oui, alors combien coûte un rein, Céline, à ton avis ?
Alors, je ne sais pas.
Alors, moi non plus, mais je me suis renseigné. Et alors, apparemment, entre 10 000 et 200 000 euros, la fourchette est large. Depuis l'an 2000, hein, c'est la Chine qui est la plaque tournante mondiale du trafic d'organes et du tourisme de transplantation. Dans la même conférence de presse que je citais tout à l'heure, le diplomate Mohamed Al-Hakim, il décrivait d'ailleurs comment, selon lui et ses sources, les organes partaient irait de l'hôpital de Mossoul pour rejoindre la Turquie et la péninsule arabique et de là irait approvisionner la Chine principalement. Rappelons enfin, Céline, que le trafic d'organes est illégal, contraire à la dignité humaine et à l'éthique médicale, mais que la législation internationale sur le sujet est très récente. Ce n'est qu'en 2008 qu'un texte non contraignant a été adopté sur la scène internationale et les 25 et 26 mars dernier se tenait à Saint-Jacques-de-Compostelle la convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains organisée par le Conseil de l'Europe donc, et le gouvernement espagnol. Il s'agit du premier traité international qui s'attaque à ce crime, dont Daesh se serait peut-être rendu coupable.
Alors ces dernières révélations, Fabrice Ballanche, elles vous inspirent quoi ? Du doute aussi ? Vous emploierez le conditionnel sûrement ?
Moi, ça ne m'étonne pas. Bon, évidemment, on n'a pas forcément des preuves écrites, mais pour tout ce qui se passe dans la région, de toute façon, le trafic de pétrole... On n'a pas les otages, est-ce qu'ils sont libérés contre rançon ou pas, etc. On n'a jamais de preuves écrites. Mais on a quand même des mouvements comparables. Trafic d'organes au Kosovo, il y a eu la même chose. Les milices kosovars qui sont au pouvoir aujourd'hui, elles ont fait du trafic d'organes pour se financer. Et puis aussi pour financer des réseaux mafieux, ça c'est très clair. Les financements extérieurs, ils existent. 82%, 18% de financement extérieur, c'est impossible d'être aussi précis. Il faut revenir sur les prises d'otages. C'est une manière légale pour le Qatar, par exemple, de financer Daesh. On demande au Qatar gentiment de payer la rançon. Le Qatar le fait le plus volontiers du monde. Ça permet comme ça de blanchir son financement à Daesh. Mais finalement, ça, évidemment, vous ne pouvez pas le prouver. Alors, évidemment, les médias français sont très, très prudents là-dessus parce que vous risquez un procès. Vous avez l'ambassade du Qatar qui va vous coller un procès en diffamation, qui va retirer toutes les pubs qui pourraient alimenter votre journal. Donc c'est un moyen aussi pour le Qatar comme pour l'Arabie Saoudite d'influencer les médias français qui volontairement vont mettre des nuances pour pas perdre des marchés.
Alors on en vient maintenant à la dernière partie de l'émission pour évoquer un dernier visage de Daesh qui lui sert de pilier, tout comme lui servent de pilier la charia et son organisation militaire et étatique, à savoir ses stratégies de communication. Daesh, c'est en effet aussi le pouvoir de la peur, celui de l'inspirer, de la répandre, de l'entretenir et d'en faire naître de nouvelles, et aussi de séduire par elle. On en vient tout de suite à la manière dont Daesh exerce son emprise sur l'Occident, car le pouvoir de l'organisation ne vient pas seulement de ses hommes, de ses combattants, de son organisation, mais aussi de son discours, qui construit et définit la réalité de rapports de force et une vision du monde que Daesh veut imposer à l'Occident. Alors parmi les nouveautés introduites par Daesh se trouve le recrutement en masse de djihadistes étrangers, des volontaires qui viennent du monde arabo-musulman, mais aussi, on le sait, quelques-uns d'Occident et d'Europe. Daesh serait ainsi le produit de notre modernité, selon un titre de Cécile Chambreau, qui intitule ainsi un article qu'elle a écrit pour Le Monde en janvier dernier. Daesh se sert en effet à la perfection des nouveaux moyens de communication pour recruter et terroriser. Alors Twitter et les comptes de propagande, les campagnes hashtag, Facebook, YouTube, Instagram, AskFM, qui relayent les messages, les photos, les discours et les vidéos d'exécution pour inonder la toile. Utilisant les failles légales qui affectent en nombre ces réseaux, l'EI se meut dans un environnement de liberté qui lui assure une immense tribune médiatique. L'ironie dans l'histoire, c'est aussi que ces plateformes sont quasiment toutes américaines, mais l'État islamique dispose aussi de ses propres moyens de communication. Le site de Daesh, anglophone à l'origine, a été traduit en français en octobre dernier et lui permet ainsi une visibilité en France ainsi que dans l'Afrique francophone. L'organisation dispose aussi depuis 2007 de son propre label de vidéoproduction qui a fait ses preuves lors de la retransmission en direct de la prise de Mossoul. Alors Fabrice Ballange, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler aussi de cyberguerre dans le cas de Daesh ? Car pour l'instant, l'organisation en fait, diffuse et infuse le réseau Internet mondial, mais il ne s'en prend pas encore directement au réseau informatique ou aux moyens de transmission de ses ennemis. Ce qui serait vraiment une cyberguerre, dans l'occurrence.
Ah là, ça voudrait dire qu'ils sont montés d'un cran dans la cyberguerre. S'ils avaient des spécialistes capables d'envoyer des virus, de pirater les systèmes informatiques des agences de renseignement ou autres. Cela dit, ils l'ont déjà fait pour quelques sites de municipalités ou d'organisations où ils les ont piratés. Mmh. Zarqawi, ce qu'il a distingué des autres groupes en Irak dès 2004-2005, c'est justement sa capacité à utiliser les médias, à utiliser Internet pour apparaître, pour se différencier des autres groupes terroristes. Mmh. Et l'État islamique est vraiment dans la continuité de Zarqawi à ce niveau-là. Leur objectif étant vraiment d'être hégémonique sur la toile pour attirer les financements et les nouveaux combattants.
Alors l'ensemble des moyens médiatiques dont use Daesh appuie toujours son message religieux, appuyer la grandeur du califat, souligner la mort des infidèles, faire passer ses combattants pour des héros. L'État islamique ne recule devant rien pour théâtraliser son message, et cela dans un but bien précis, attirer à lui des volontaires.
Les langues de ces hommes se délient très vite, jusqu'à nous montrer les vidéos de leurs combats, auxquels prennent part, selon eux, de nombreux étrangers.
Celui-là est mort, il venait de Tchétchénie. Moi, j'en ai vu d'Allemagne, de Belgique. En fait, tous les pays du monde sont représentés. Moi, j'en fais passer tous les jours, par ici, par ce village.
Alors, comme on vient de l'entendre dans ce reportage de France 2 sur la trace de djihadistes français, Daesh a aussi, si on peut le dire, un visage occidental. Les combattants étrangers représenteraient 20 000 personnes, dont 4 000 environ de pays occidentaux. En Syrie, la majorité des combattants seraient également étrangers. Alors, on n'en est pas non plus à une vague immense, mais ces chiffres sont suffisamment inquiétants pour qu'on s'y arrête un instant. Surtout que dans le pouvoir de la peur exercée par Daesh, il y a aussi cette peur de l'ennemi de l'intérieur qui monte en Europe, instrumentalisée aussi par des partis politiques. Alors, pourquoi ces personnes partent-elles et qui sont-elles ? On va tenter de répondre à ces questions maintenant. On peut évoquer bien sûr la figure de Jihadi John, le meurtrier présumé des journalistes américains de James Foley et Stephen Sutloff, ainsi que d'autres travailleurs humanitaires. Il est devenu la figure de proue du groupe islamique. Il y a aussi des Français parmi les bourreaux de l'EI. On estime ainsi que 1100 Français sont actuellement actifs dans les filières djihadistes, dont 20% de convertis à l'islam. Et de fait, une vidéo mise en ligne montre l'un d'eux en train d'exécuter un soldat syrien. Maxime Ochar est un converti à l'islam, parti en Syrie en août 2013, né en France avec des parents français, auto-radicalisé sur Internet, comme vous le disiez. Maxime Ochar est aujourd'hui poursuivi pour assassinat en bande organisée dans le cadre d'une organisation terroriste. Là encore, les réponses des pays occidentaux sont assez délicates à trouver, entre protection des libertés et nécessité d'agir. Les interdictions de sortie du territoire et les confiscations de passeports sont pour l'instant la solution qui a été privilégiée en France et en Grande-Bretagne. Selon vous, Fabrice Ballange, comment on lutte efficacement contre l'embrigadement et la propagande de Daesh ?
Ah, c'est extrêmement difficile, hein, parce que vous avez des gens en France de profil type, hein, le profil Terminator, celui qui va profiter justement de Daesh pour laisser exprimer sa violence contenue dans le cadre français, mais qui peut s'épanouir dans le cadre de Daesh. Puis vous avez le profil Mère Teresa. Alors, Mère Teresa, c'est la personne qui veut sauver le monde et qui est persuadée que Daesh, eh bien, c'est la solution pour nettoyer la planète de l'impérialisme, de l'exploitation, du capitalisme. Enfin voilà, tout ça un peu mélangé, qui les attire en Syrie et en Irak. Donc comment lutter contre ça? Il faut vraiment une réponse globale qui part évidemment dès l'école, mais pas les petits clips qu'on a sur la défense de la laïcité ou des choses comme ça. Ça veut dire vraiment dès la maternelle restaurer les idéaux républicains et surtout donner un sens, des valeurs aux gens. Parce que c'est cette absence de sens, cette absence de valeurs, ce vide qu'on a aujourd'hui dans les pays occidentaux qui fait le lit justement de Daesh, qui propose un cadre, des solutions pour des gens qui sont un peu perdus.
Alors justement, vous parlez de vide et l'État islamique vient bien combler des vides. Alors le vide existentiel d'une génération perdue peut-être, livrée au chômage, à une crise identitaire sans précédent en Occident. Vous seriez d'accord
avec
ça ?
Oui, il y a une attirance pour des générations qui ne sont pas forcément des générations au chômage, paupérisées, etc. Mmh. On retrouve dans les rangs de Daesh des gens qui sont confortablement établis dans la vie en Occident, mais qui ont besoin de donner un sens à leur vie, qui sont frustrés parce qu'ils pensent qu'ils sont incapables de changer la société, qui sont incapables de changer le monde. Et ce sont eux qui sont effectivement les plus dangereux et qui sont capables de capitaliser, d'entraîner derrière eux d'autres personnes, plutôt laissées à l'abandon effectivement.
Alors Fabrice Ballon, je vais faire un parallèle peut-être très choquant, mais 50 ans après la libération des camps de concentration, est-ce que l'Occident ne se trouve pas devant une nouvelle incarnation du mal absolu ? J'utilise ce terme parce que des journalistes, des éditorialistes, des hommes politiques aussi n'hésitent pas à parler d'islamo-fascisme.
Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je disais que Daesh est une organisation totalitaire qui s'inspire des méthodes. Mais comme beaucoup de mouvements islamistes, hein, les frères musulmans sont nés en 1926 et ont gardé de cette époque justement une organisation fasciste. Il n'y a pas que Daesh qui est islamo-fasciste. Les frères musulmans, ce sont des islamo-fascistes aussi.
C'est cette capacité aussi à prendre le visage de l'ennemi parfait pour ses ennemis qui peut-être fait le succès de Daesh aujourd'hui ?
Alors effectivement, en frappant Daesh, en tout cas les Américains ont frappé Daesh, déjà ils l'ont davantage médiatisé, mm-hmm. En déclarant la guerre à la terreur, vous contribuez également à médiatiser cet ennemi, et en faisant l'ennemi public numéro un de l'Occident, on en fait l'ami public numéro un de tous ceux qui rejettent justement l'Occident. Alors dans le monde arabe et musulman, mais aussi en Occident, ceux qui évidemment ont des réserves, voire une haine par rapport au système capitaliste qui régit notre société.
Alors on va finir sur cette ultime note et on suivra bien sûr avec attention les suites des événements dans la région. Merci pour ces explications et pour votre présence parmi nous, Fabrice Ballanche.
Merci pour cette émission riche.
Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, autrement appelé GREMO, à la Maison de l'Orient, qui organise chaque année des journées d'études et que vous travaillez en ce moment plus particulièrement sur la crise syrienne. C'est bien ça ?
Tout à fait.
Merci beaucoup à vous. Merci à toi Thomas pour t'être prêté au jeu des changements d'angle et des élargissements sur le sujet.
Je t'en prie Céline.
Merci à la technique et au travail des professionnels d'ENS Média, toujours sans faille. On retrouve donc dans notre bibliographie pour préparer ces deux numéros les ouvrages que j'avais cités précédemment, donc l'ouvrage écrit et coécrit par Olivier Hahn et Thomas Fichy de Hanneville intitulé « L'État islamique, anatomie du nouveau califat » publié en novembre 2014. Vous pouvez également retrouver le numéro 1271 du courrier international consacré à Daesh, ainsi que deux articles en ligne de Myriam Benrad publiés sur Cairn en 2014. Vous retrouverez bien sûr les indications de bibliographie sur notre site. C'est la fin de cette émission, chers auditeurs, et merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques temps pour un nouveau numéro de Le Monde ne suffit pas. Et puis dans la lignée d'Antoine, de Charlotte, de Thibault, Rémi, Imad, Fabien, Justine, Thomas, Nina, Cyril et Chloé qui nous ont précédés aux commandes de Le Monde ne suffit pas, on espère vous avoir donné envie, qui sait, de rejoindre l'aventure LMNSP et pourquoi pas, dès cette année ou l'année prochaine, de venir parler géopolitique et monde actuel sur notre web radio. Bonne semaine sur Transistor, en espérant que jamais, jamais votre monde ne suffira.